Nous recevons aujourd'hui M. Andrei Gratchev, qui est diplômé de l'Institut des Relations internationales de Moscou, docteur en sciences historiques. Il a fait ses débuts entre 1963 et 1968 au journal Komsomolskaya Pravda à Moscou. En 1991, il est conseiller du président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev. Et puis depuis entre 1993 et 1995, il est professeur à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Il est par ailleurs professeur invité au Japon, à l'université Ritsumeikan, donc en faculté des relations internationales à Kyoto. En 1996-97, il est professeur invité à l'université de Paris, en Sorbonne. Et en 1997-1999, il est senior researcher au St. Anthony's College à l'université d'Oxford. Actuellement, il est éditorialiste au journal Les Temps Nouveaux et aux Nouvelles de Moscou. Et il est membre du Conseil sur les questions de la politique internationale et de défense de la Fédération de Russie. Il a publié de nombreux ouvrages que vous pouvez trouver donc pareil dans les librairies, notamment L'extrémisme politique, publié à Moscou en 1987, ou bien encore L'histoire vraie de la fin de l'URSS, Le naufrage de Gorbatchev, publié à Paris aux éditions du Rocher en 1992. Vous pouvez trouver aussi La chute du Kremlin, L'Empire du non-sens, publié par Hachette en 1994, ou bien encore L'exception russe, Staline est-il mort, publié aux éditions du Rocher en 1997. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole.
Bonsoir, merci. Merci d'être aussi nombreux ce soir. J'étais très impressionné par cette audience et surtout par le fil d'attente que j'ai parcouru en venant dans cette salle. Je peux vous dire que j'arrive hier soir de Moscou. Je vous apporte donc les impressions toutes fraîches de la Russie. Et même si le thème de mon intervention, de ma conférence est presque philosophique, je crois que dans le courant de la partie questions-réponses, on pourra aborder des questions d'actualité, surtout compte tenu du fait que dès lundi prochain, c'est la première visite du président actuel russe, Vladimir Poutine, ici en France. Donc, par modestie, j'attribue votre présence ici plutôt à l'approche de cet événement qu'à ma conférence, à la perplexité, peut-être, que vous éprouvez tous face à l'état des lieux actuel, à l'état de la Russie. Pour vous rassurer, je peux vous dire que vous n'êtes pas seul, de ce point de vue, pas seulement parmi les étrangers, mais parmi les Russes. Il y a pas mal de ceux qui sont inquiets, sont perplexes, sont déçus. Voilà, on va essayer, dans la limite du temps qui m'est accordé, d'attaquer le sujet qui, évidemment, est extrêmement vaste aux dimensions de la Russie. Bien. Excusez-moi si je commence pour entrer dans le sujet par peut-être les généralités qui, pourtant, à mon avis, sont nécessaires pour bien expliquer, peut-être pas pour comprendre, le sujet. Comme notre université s'appelle, ou plutôt s'inscrit dans le cadre de l'initiative 2000, je crois qu'il serait opportun de rappeler que parmi les différentes appellations de ce siècle, du siècle qui est en train de se terminer, il y a une qui est presque pas contestée, le siècle rouge. Pas pour la couleur du sang qu'il a fait couler, parce que les autres ont dû faire autant, mais pour la couleur du drapeau rouge, qui pendant presque tout ce XXe siècle flottait au-dessus de la grande partie de la planète, le drapeau communiste. Certes, le communisme ne date pas du XXe siècle, pourtant, pour lui, pour ce courant idéologique, pour ce mouvement politique, ce siècle s'est avéré fatal. Parce que par chance, qui s'est transformé en malchance, cette idéologie et ce courant ont pu s'appuyer dans la recherche de leur matérialisation sur la puissance d'un grand État. L'État s'appelait Union soviétique. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que pas mal d'historiens, dont Eric Hobsbawm, malheureusement, je n'ai pas pu assister à sa conférence de hier, délimitent ce qu'ils appellent le court XXe siècle par les dates de l'existence de l'Union soviétique, c'est-à-dire à partir de la révolution d'octobre de 1917 jusqu'à la chute du mur, ou plus précisément jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Ça fait donc bientôt 10 ans que cet État, l'Union soviétique, est disparu. Plus de 15 ans passés depuis le début de la perestroïka, initiée par Gorbatchev, qui a déclenché la réforme d'un système qui s'est avéré suicidaire pour l'État et qui a apporté des transformations grandioses à la politique internationale. Certaines vont, dont moi d'ailleurs, aussi loin que se pose la question, laquelle des périodes dans l'histoire russe du XXe siècle, les 10 jours de la révolution d'octobre ou les 10 ans que la Russie a pris pour la sortie du communisme, ont plus ébranlé le monde. Pour le monde occidental, les conséquences de la dissolution presque inattendue de l'Union soviétique semblaient avoir une signification indéniablement positive. Élimination du danger de la Troisième Guerre mondiale, du conflit nucléaire entre l'Est et l'Ouest, la fin de la guerre froide, l'unification de l'Allemagne et de l'Europe, de l'Ouest et de l'Est. Une seule question que pas mal des dirigeants politiques occidentaux, longuement incrédules et méfiants à l'égard de Gorbatchev d'ailleurs, se posait concernait les origines de ce processus autodestructeur pour le régime communiste. Car le fait que le régime bolchevique en Union soviétique n'a pas attendu comme les régimes totalitaires en Allemagne ou au Japon la défaite militaire et l'arrivée de l'armée d'occupation pour s'engager sur la voie de la démocratisation, devait confirmer l'existence des forces vives, réformistes et démocratiques au sein de la société soviétique, même pendant l'époque communiste, certifier que la mise en cause de ce régime était le fruit et le résultat de son évolution intérieure et on peut dire naturelle. À l'époque, ceci semblait être confirmé par l'enthousiasme avec lequel les réformes proposées par Gorbatchev étaient accueillies et suivies, soutenues par la population qui voyait en la perestroïka une chance pour abattre leur propre mur idéologique et policier qui les séparait de l'Europe et du reste du monde. Or, 10 ans plus tard, la Russie présente un triste paysage d'un pays non seulement ravagé par la crise économique et sociale, dont elle ne parvient pas à sortir, mais par une crise identitaire, un champ de ruines politiques, pays en perte du sens de mouvement, qui se considère trompé non seulement par ses dirigeants, mais aussi par l'Occident, vers lequel il voulait s'ouvrir. Déçu par la forme qu'a pris pour la vie quotidienne des millions de gens, je ne vais pas citer ici les exemples précis, les chiffres que vous pouvez facilement trouver dans la presse quotidienne et sur vos écrans. Méfiante à l'égard des valeurs démocratiques et morales occidentales qu'il était prêt à considérer comme universelles. Déçu par la forme qu'a pris évidemment la démocratie et l'économie de marché qui lui était présentée comme une recette magique capable à résoudre ses problèmes. L'état actuel de la Russie post-communiste est en même temps, ce qui est logique, source naturelle de l'inquiétude pour l'Occident. Et pour moi, le fait que ce pays ait presque disparu des écrans, des radars de la presse et de la politique internationale, comme un avion en chute libre, reflète cette perplexité et cette inquiétude. Et pourtant, personne ne peut ignorer la Russie. Il s'agit d'un pays qui, certes, ne va pas disparaître de la Terre ni de l'espace, même si la station Mir va couler bientôt dans l'océan. Elle continue à peser énormément dans la politique internationale, même si elle n'est plus la source de la peur nucléaire, et si son poids économique soit réduit actuellement aux dimensions d'une Hollande. Les raisons de cette inquiétude occidentale sont évidentes. D'abord, c'est l'incertitude pour le choix de l'avenir de la Russie. Certes, ce pays n'est plus soupçonné de pouvoir envoyer ses chars vers la Manche, ce qui était le cas de l'Union soviétique, à Prague ou même à Vilnius, compte tenu de la triste performance de ses chars sur son propre territoire en Tchétchénie. Mais elle peut devenir la source d'une autre expansion, cette fois du capital mafieux, des habitudes du capitalisme sauvage, maîtrisé il y a déjà plus d'un siècle à l'Occident, et surtout de l'instabilité stratégique le long de la ligne de la démarcation entre le monde occidental et le monde musulman et la Chine. D'autant plus que sur le plan politique, son évolution actuelle de la politique intérieure, cette fois, son évolution actuelle est préoccupante. Le régime de M. Poutine, sous la couverture des formules ambiguës, comme par exemple la dictature de la loi ou la démocratie dirigée, navigue clairement en direction du pouvoir autoritaire aux couleurs dites patriotiques, si pas nationalistes. Ayant déclaré comme objectif le redressement de l'État fort Il semble s'inspirer pour y aboutir des pratiques assez récentes de l'État soviétique et en même temps, curieusement, des idées de Solzhenitsyn. Même si pour rassurer les politiques et surtout les hommes d'affaires occidentaux dont des investissements la Russie a besoin, il proclame sa fidélité aux principes de l'économie libérale, on le voit mal réussir à transformer la Russie en un pays moderne du XXIe siècle, s'inspirant des exemples de Stolypine ou de Pinochet. Car si la Russie, sous sa direction, va essayer de rétablir son rôle de la grande puissance, s'inspirant de ses exemples et de son passé, cela la conduirait presque obligatoirement à faire renaître les deux piliers traditionnels de l'État russe et soviétique, qui l'ont conduit à la catastrophe nationale, la bureaucratie et le complexe militaro-industriel. Déjà, on voit réapparaître les signes de la nouvelle malaise dans les relations entre la Russie et l'Occident, et ceci à peine 10 ans après la chute du mur du Berlin, dont l'anniversaire a été célébré encore tout récemment. À la place de l'harmonie dans les relations à laquelle on aspirait, je crois sincèrement, des deux côtés du rideau de fer, il y a encore quelques années, on voit réapparaître une nouvelle méfiance, presque un nouveau rideau psychologique. La Russie, qui s'offrait quasiment un partenaire stratégique à l'Occident, actuellement est en train de chercher des alliés stratégiques contre l'Occident, en Chine, en Inde, ou à nouveau, comme à l'époque de l'Union soviétique, dans les autres troubles du Proche-Orient, dans le monde arabe, tout en se présentant en bouclier anti-islamique du christianisme en Tchétchénie et en Asie centrale. Quant à l'Occident, on constate que l'un des candidats à la présidence des États-Unis envisage déjà de chasser la Russie du club des G7 à peine les avoir associés l'année dernière. Certes, le monde après la guerre froide et la disparition de l'Union soviétique n'est pas devenu plus tranquille et la stabilité artificielle imposée par le condominium des deux superpuissances a cédé sa place, d'une part, à l'anarchie des guerres et des conflits interethniques et religieux qui risquent de faire revivre dans le XXIe siècle les problèmes et les litiges du XIXe et peut-être même du XVIIIe. D'autre part, aux tentatives assez maladroites de la seule et dernière superpuissance, les États-Unis, de gérer la nouvelle instabilité du monde prenant la place de l'ONU. Reste que même si la responsabilité essentielle pour la forme malheureuse qu'a pris la sortie de la Russie de son passé communiste incombe essentiellement à la classe politique russe, l'Occident, à mon avis, n'a certes pas trouvé la façon convenable pour l'accompagner. Chacun peut trouver ses alibis et ses justifications. Les réformateurs russes, en commençant par Gorbatchev, cherchant à expliquer le bilan aussi dramatique de leur projet tellement radieux, le fait que leur expériment s'est transformé ou s'est conclu presque en une sorte de Tchernobyl politique et social, peuvent évoqué l'immensité de la tâche. En fait, la révolution gorbatchevienne, à mon avis, peut-être paradoxalement, s'est avérée plus profonde et difficile à digérer pour la Russie que celle d'octobre de 1917. Je m'explique. Parce qu'après tout, en 1917, la Russie, après les années des difficultés, des bouleversements de la guerre civile et des années qui ont suivi, n'a finalement passé que du féodalisme autocratique russe au féodalisme idéologique soviétique, reproduisant largement les mêmes schémas de rapport entre le pouvoir et la société. Le stalinisme a beaucoup profité de la méthodologie tsariste. Et la tradition religieuse du peuple russe et son penchant vers la mythologie sociale ont été réorientés par le régime et par la propagande officielle vers l'exaltation de la construction communiste. Or, l'abandon du système communiste devait entraîner avec lui une mutation très profonde de toute la société. La découverte véritable de la démocratie, de la loi et même de la propriété privée que la grande partie de la population soviétique et russe ne connaissait pas. Ceux qui, par exemple, pour l'Europe de l'Est, après la chute du mur et les révolutions de velours de 1989, signifiaient le retour au réflexe politique et économique d'une société européenne historique, pour la population soviétique, devait être l'équivalent d'une découverte d'un nouveau monde. À cela, il faut ajouter une raison supplémentaire de la frustration nationale pour ce peuple, la perte de l'Empire, et par conséquent, du statut, pas seulement des habitants de la grande puissance, la deuxième superpuissance mondiale, mais aussi de la nation impériale, avec toutes ses caractéristiques, dont, d'ailleurs, l'internationalisme, aussi propre pour le peuple russe depuis pratiquement le XIIIe siècle, depuis la conquête de la Russie par l'Horda d'or, c'est-à-dire les troupes des Tatars et des Mongols, qui ont eu comme résultat un curieux mélange eurasienne des peuples, des religions, des populations sur ce vaste territoire. Les Russes, avec l'effondrement de l'Union soviétique, étaient forcés à évacuer leur zone d'influence en Europe de l'Est, avec le départ des troupes soviétiques, mais aussi à sacrifier les grandes parties de la Grande Russie historique, des pays baltes, en passant par l'Ukraine, jusqu'au Caucase, et l'Asie centrale. Pas mal d'eux, près de 15 millions de Russes, se sont transformés en minorités discriminées dans ces territoires où bon nombre de gens étaient nés, mais je ne dois pas vous raconter l'histoire coloniale de la France. Pour devenir les minorités opprimées et de cette façon découvrir les caractéristiques ethniques de la nation, avec l'apparition naturelle de phénomènes propres des nations menacées, le nationalisme. L'Occident, à mon avis, n'a pas tenu compte de toute la complexité de ce processus. Il a d'une part, et peut-être plein de bonne volonté, offert à la nouvelle élite russe, à la place du cours abrégé de l'histoire du Parti communiste rédigé par Staline, le cours abrégé du capitalisme rédigé par les écoliers de Chicago. La logique de la démarche était simple, peut-être simpliste. Tout ce qui devait éloigner la Russie post-communiste de l'État soviétique devait la rapprocher presque automatiquement de la démocratie à l'occidentale. Une des graves conséquences de cette action fut la destruction de l'État, tout simplement, et l'arrivée du chaos que M. Poutine essaye maintenant de maîtriser, se servant de ses réflexes de l'ancien membre du KGB. Une autre conséquence de cette opération fut le fait de ce que, face à la crise économique actuelle, j'évoque quand même deux ou trois chiffres, près de 40% de la population russe actuellement vivent en dessous du seuil de la pauvreté, officiellement établie. C'est vrai que pour remédier à cette situation, il pratique le système D, se servant de la terminologie française, et il travaille sur deux ou trois boulots à la fois, mais dans la plupart des cas, même dans les cas où les gens parviennent à résoudre les problèmes de la vie quotidienne, l'existence actuelle, pour beaucoup, c'est l'existence et c'est la vie d'une survie. Ce qui est encore plus dramatique pour une population qui ne constate dans sa condition de vie actuelle que la régression et qui ne voit pas de perspective de toute façon immédiate du redressement et d'amélioration de cette situation. Mais la conséquence politique, pour la politique internationale de la Russie, pour ses relations avec l'Occident, devait être la suivante. La Russie, qui est en effet, au début du siècle, avec son foi presque religieuse, s'est jetée dans le projet communiste offert par les bolcheviks, mais emprunté à l'Occident, à l'idéologie occidentale, rédigé par les théoriciens et les idéologues occidentaux, à partir d'ailleurs du contexte politique, social et économique très différent de celui de la Russie. Après avoir constaté l'impasse au bout de 70 ans de la tentative de la construction de ce monde alternatif, s'est jeté quasiment avec le même foi religieux dans la promesse, dans le mythe de l'économie libérale, croyant que en empruntant les schémas ou les structures institutionnelles et constitutionnelles à l'occidental et les recettes des conseillers du FMI, elle pourra attendre ou s'attendre à un miracle. Cette fois, pas un miracle communiste, mais un miracle capitaliste. Or, la situation économique de ce pays étant telle que je vous la présente, et que, logiquement, les gens, et pas seulement les politiques, seraient intéressés, seraient séduits et tentés à chercher le coupable, ailleurs que dans leur propre action et dans le cercle de leurs intimes, c'est l'Occident qui devient le coupable. C'est l'Occident qui continue à comploter contre la Russie. Mission qu'il s'est choisie depuis le siècle dernier. C'est une conviction qui a alimenté largement les courants slavophiles en 19e siècle. C'est aussi les complexes d'un pays qui se déchirait presque constamment entre le souci, les tentatives de rattraper l'Occident dans son évolution économique, politique et démocratique, et, ce qui est logique, psychologiquement et pas seulement politiquement, le complexe de supériorité qui était à l'origine des différentes versions de messianisme russe, messianisme orthodoxe, des slavophiles, messianisme bolchevique du début de ce siècle, car le projet communiste promettait à la Russie de court-circuiter l'histoire, de se mettre à la tête de l'évolution universelle, à la tête du monde, et cela très rapidement. Donc, maintenant, cette nouvelle promesse, ce nouveau mythe des miracles qui devait provenir avec l'adoption de nouveaux fois, de la nouvelle foi libérale, du fait qu'ils ne se sont pas accomplis, apporte l'amertume, la déception et l'hostilité, alimentant encore une fois les courants nationalistes anti-occidentaux. Deuxième explication de ce phénomène, très préoccupant, à mon avis, car il risque encore une fois de mettre la Russie moderne, dans les situations la plus dangereuse du point de vue de ses intérêts nationaux, c'est-à-dire dans la provincialisation, dans l'état de la coupure volontaire de ses relations, de ses rapports avec le monde extérieur, dans la conviction de ce que la Russie, déjà à cause de ses dimensions, à cause de sa grandeur physique, à cause de ses richesses naturelles, soit un pays autosuffisant, et que ce n'est pas elle qui aura besoin du reste du monde, mais que ce serait plutôt au monde, eh bien, d'aller à la recherche de ses services et de sa bienveillance. Mais il y a un autre aspect dans la politique occidentale qui, à mon avis, a contribué à la construction de ces complexes, ou peut-être à la réapparition de ces complexes, de ces vieux démons, dans la conscience et dans la politique russe. C'est la politique extérieure, internationale de l'Occident en direction de la Russie, qui a pris, depuis la fin de la guerre froide, la forme de l'exploitation de sa malaise nationale et de sa faiblesse stratégique. D'abord, à travers l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, sans un motif stratégique évident, au moment précis où la Russie non seulement a cessé de devenir le facteur de danger pour le monde occidental, si elle l'était, mais au moment où, en effet, la Russie, par la politique de son ouverture, par les mesures de limitation, de désarmement largement unilatéral, s'est offert en tant que partenaire ouverte pour la coopération avec l'Occident. Le fait que l'OTAN se rapproche des frontières de la Russie n'est pas perçu, même s'il l'interprète de cette façon, par les généraux russes comme l'accroissement du danger militaire qui viendrait du côté occidental. C'est peut-être plus compliqué. C'est la manifestation optique, publique, de l'impuissance de la Russie, du fait de ce qu'on ne tient plus compte de son opinion et qu'on procède de la façon unilatérale, comme si ce pays n'existait plus. Pareil pour l'autre opération, cette fois pas seulement politique, mais militaire de l'OTAN en Yougoslavie, à Kosovo. Là, pas mal les Russes, et je crois qu'il est important de le dire, pas par la solidarité mythologique quand même avec les frères orthodoxes serbes, parce qu'il y avait pas mal des Russes qui en ont voulu à Milosevic autant que nos collègues occidentaux pour la façon dont il a voulu maintenir l'unité ou l'intégrité territoriale de la Serbie, procédant à peu près de sorte comme Yeltsin en Tchétchénie pendant la première guerre, sa première guerre de Caucase. Mais encore une fois, la raison de cette frustration, de cette amertume, c'était le constat de fait de ce que la première guerre chaude et pas froide en Europe depuis la fin de la guerre froide devait se déclencher aux Balkans dans la proximité proche, dans la proximité des frontières et de la zone de la présence traditionnelle de la Russie, déclenchée par les pays occidentaux de la façon unilatérale, sans se soucier de demander ni l'avis de la Russie, ni l'approbation du Conseil de sécurité. Encore une manifestation, une sorte de camouflet politique pour ce pays qui, quand même, ne parvient pas encore d'oublier son existence et son statut encore récent de la grande puissance mondiale et internationale. Ceci a largement contribué à la constitution au sein de la société russe d'un très étrange consensus national de condamnation de cette opération de l'OTAN, d'un consensus pervers, je dirais, qui allait d'un Solzhenitsyn jusqu'à Sergueï Kovalov, qui est un dissident connu et un démocrate convaincu qui a passé plusieurs semaines à Grozny sous les bombes de l'armée russe pendant la première guerre de la Tchétchénie. Pire encore, je crains que pour la première fois depuis déjà plusieurs siècles, l'élite intellectuelle, et pas seulement l'élite politique, qui évidemment peut avoir ses intérêts propres à exploiter ce syndrome anti-occidental au sein de la société, l'élite intellectuelle, c'est-à-dire la célèbre intelligentsia russe, commence à abandonner ou montre les signes de l'abandon de sa foi en Occident en tant que référence. Ce qui faisait partie pendant quasiment toute la période de son histoire, faisait partie de, je dirais, de la définition même de l'intelligentsia russe, qui, par cette définition, était pro-occidentale. En Europe, perdant sa foi en Europe et en Occident, et de ce point de vue, je dois vous dire que pendant cette opération au Balkan, les Russes avaient des difficultés de distinguer entre l'Europe et le non-Europe, c'est-à-dire les États-Unis, car, encore une fois, comme à l'époque de la guerre froide, l'Occident a choisi pour sa marche à l'Est l'uniforme de l'OTAN. L'Occident n'est plus considéré comme un donneur de leçons. Et une suite logique de cette situation soit le fait que ce ne soit que les nationalistes russes et les généraux qui en soient heureux. Les nationalistes, c'est facile à comprendre. Les généraux, parce qu'ils peuvent montrer du doigt cette opération pour dire que c'est de ces raids aériens de l'aviation de l'OTAN qu'ils s'inspiraient au moment où ils ont déclenché la deuxième guerre en Tchétchénie. Déjà, Gorbatchev, à la fin de son mandat, qui a été coupé par la dissolution forcée de l'Union soviétique, avertissait ses partenaires occidentaux contre le fait qu'il commettrait, selon lui, une grave erreur s'il prendrait l'intention, la détermination de la société soviétique à l'époque de se libérer de son passé communiste pour un signe de la faiblesse et que, par conséquent, il chercherait à l'exploiter. Maintenant, c'est chose faite. Et la leçon qu'en tirent beaucoup de Russes, c'est que dans ce 21e siècle qui commence devant nos yeux, pour être respecté, il faut être fort et menaçant. Le mandat qu'a obtenu sur ce fond de trouble, peut-être même de désastre national, M. Poutine, méconnu il y a encore un an de la société russe, il a pu profiter du soutien d'à peu près deux tiers de la population, qu'il a choisi pas pour son programme, puisqu'il ne l'a pas présenté, il l'a choisi pour son image d'un homme d'action, d'un homme fort, d'un homme de l'ordre, c'est-à-dire il a symbolisé les qualités recherchées, attendues par cette société qui en a marre de vivre le spectacle de la corruption au sommet du pouvoir et du chaos dans les rues. Son mandat est double, redresser l'État et rétablir une place digne de la Russie dans le monde. Reste à voir, il va peut-être s'expliquer devant vous dès la semaine prochaine, par quels moyens, par quelles méthodes, les méthodes anciennes, propres, traditionnelles pour la Russie tsariste et soviétique, il va chercher à l'accomplir, ou par la méthode moderne, digne de ce siècle qui commence. Peut-on remédier à cette situation de l'extérieur? J'en passe ici le débat, la discussion la réflexion difficile et douloureuse qui est en train de s'opérer au milieu de la classe politique et de l'élite intellectuelle russe. Je crois que oui. Malgré pas mal des pots cassés, il y a encore la possibilité, surtout il y a la nécessité de le faire. Et je crois qu'il y a déjà plusieurs exemples de ce que ça soit possible. On a pu voir, même pendant les quelques mois de cette année, que, avec tout ce que j'ai raconté, comme la frustration, les complexes et la malaise actuelle de la Russie, la société russe est présente, elle réagit à la situation comme ça a été le cas du naufrage de Koursk, lorsque c'était la société, beaucoup plus que la classe politique, qui a réagi à l'action maladroite et malheureuse du président. Cette société a réagi à la pression, à la réaction du Conseil de l'Europe, qui, en différence des États, des fonctionnaires, des ministères, des bureaucrates, n'a pas hésité à suspendre pendant quelques mois la participation de la Russie aux réunions du Conseil de l'Europe à cause de la Tchétchénie. Et j'étais très content de constater que tout récemment, à la Douma, au Parlement russe, une délégation du Conseil de l'Europe a pu assister à un débat ouvert et honnête sur la situation en Tchétchénie. Il y a d'autres tentatives d'agir sur la situation en Russie. Il y a par exemple la promesse de Bush Junior, dans le cas où il est élu président des États-Unis, de s'engager dans le processus de la construction d'un nouveau bouclier spatial dans l'espace, nouvelle variante de la guerre des étoiles, conçue il y a une dizaine d'années par Ronald Reagan, et considérée par lui comme un moyen de faire plier l'Union soviétique à l'époque. À l'époque, l'effet, le résultat de cette action, c'était le contraire, mais paraît-il, le candidat républicain voudrait essayer là où son prédécesseur a échoué. Il y a une autre méthode, et peut-être le fait que ce soit une autre méthode aidera à la Russie et aux Russes de faire quand même la distinction entre les différentes composantes de l'Occident. C'est la méthode européenne. C'est le programme qui est en train d'être élaboré par l'Union européenne en direction de la Russie, qui, après avoir fait le bilan de l'action occidentale en direction de la Russie de Yeltsin, paraît-il, formule de la façon plus sobre, plus exigeant et plus critique son programme d'aide, qui serait orienté beaucoup plus à aider le pays et la société civile que les personnes qui sont, à cause peut-être d'un hasard de l'histoire ou du calendrier historique, à la tête de ce pays. Et il y a, ce qui est important, quand même les éléments réels de cette société civile qui sont apparus avec la perestroïka. C'est la presse de la glasnost. C'est elle qui prend sur elle la fonction de l'opposition dans l'état difficile au niveau de la classe politique, parce que on n'observe plus d'opposition politique ni au Parlement, ni parmi les partis politiques au régime actuel du président qui semble en profiter pour se présenter en dirigeant, en président de tous les Russes, court-circuitant ce qu'on appelle, en termes classiques de la politologie, les institutions de la démocratie représentative et parlementaire. Cette presse est là, elle réagit, elle tient tête, et c'est elle qui agit surtout sur ce qui est peut-être la plus grande promesse du redressement et de l'avenir de la Russie, c'est la nouvelle génération, la génération qui n'a pas connu le passé soviétique, le passé communiste, et qui, par conséquent, ne peut pas, ne doit pas, normalement, le reproduire. Merci.
J'aurais deux petites questions. Sont les suivantes. La première, ce serait que peut-être, même si ça peut sembler saugrenu, il faudrait considérer aussi l'hypothèse d'un sabordement conscient du communisme, arrivé à une certaine étape de son développement, et en pensant que la manière la plus sûre de faire, de provoquer la ruine à longue échéance du capitalisme n'était plus la conservation d'un État soviétique, sinon s'auto-saborder comme le firent les étudiants à l'université de Strasbourg avant mai 68. Par ailleurs, la Russie, ou les camps communistes, avec beaucoup d'intelligence, a su imiter même les méthodes des militaires latino-américains avec l'expérience Jaruzelski, mais avec un talent incroyable. Ça, c'est une observation latérale. Par contre, la question que j'aurais vraiment à vous poser, c'est, au cours de votre exposition, et vous avez emphatisé les côtés un peu dramatiques, critiques du tableau, mais nous restons sur la fin du point de vue de quel type de projets originaux pourrait-on envisager pour la renaissance de la Russie. Et ça se relie un peu avec l'exposition d'hier de M. Hobsbawm. C'est-à-dire, est-ce que le fait que la Russie, et en suivant justement son histoire orthodoxe, son histoire même tsariste, parce que je ne sais pas si la plupart des gens ignorent que les tsars donnaient des faux passeports aux communards persécutés en France. Les tsars faisaient ça, par exemple. Donc il y a une continuité dans l'histoire de la Russie. Cette histoire dans laquelle la Russie s'est sacrifiée, a sacrifié son patrimoine écologique. A sacrifié son patrimoine écologique, son identité, a sacrifié même son patrimoine culturel pour un idéal de justice auquel l'a porté son passé. Est-ce qu'on peut lui proposer aujourd'hui une petite originalité, une sorte de mélange entre l'anarchie des Zemstvos et, je ne sais pas, Scriabine, des idéaux un peu anarchiques, s'il et mélangés avec l'informatique merci. Actuelle, comme merci, c'est merci. Le cas en Pologne.
S'il vous plaît, si vous posez vos questions, essayez de les poser plus courtes. Merci.
Bon, écoutez, une question peut-être courte, telle que je la prendrai de votre bouche. Quel projet pour la Russie? Bon, question courte qui, j'espère, ne présuppose une réponse courte. Je suis tenté de répondre par la réflexion de Gorbatchev, qui quand même est mieux placé que moi pour peut-être le formuler. puisque quand même, avec Gorbatchev, la Russie, la Russie soviétique, a parvenu de faire une bonne partie de chemin dans le bon sens. Sa réflexion était la suivante. Encore tout récemment, il me disait, mais il le répétait à d'autres aussi, il dit, ce serait, à mon avis, une stupidité que de vouloir planifier ou établir une sorte de schéma. Bon, évidemment, ça en donnait des dates trop précis, qui, après tout, se terminerait par une tentative d'imposition de ce schéma à l'évolution naturelle vive d'un pays. Il faut engager un processus, il faut le croire, il faut y croire, et il faut tout simplement veiller à ce que le sens du mouvement ne soit pas dévié. Et par la suite, l'histoire, le peuple, l'évolution historique, eh bien, elles sauront faire le reste. C'était un peu bizarre, peut-être, une réflexion de ce genre dans la bouche du premier secrétaire, du secrétaire général du Parti communiste, parce qu'il reprenait plutôt la formule de Bernstein, qui disait « Le mouvement, c'est l'essentiel. » C'est vrai que Bernstein a ajouté « L'objectif est insignifiant. » L'objectif avait du sens pour Gorbatchev, mais le processus, donc le mouvement, emportait certes sur les tentatives d'élaboration d'un projet trop précis, puisque la Russie en a trop souffert.
Oui.
Malgré ce que vous avez dit, qui était vrai, de la position de l'Occident à l'intérieur de l'OTAN, est-ce que vous ne pensez pas qu'une chance pour la Russie serait, non pas de désagréger le bloc de l'OTAN, mais de voir les faiblesses et surtout les inégalités et certaines rancœurs de l'Europe vis-à-vis des États-Unis?
Oui, vous avez raison, mais pour cela, pour les voir, il faut passer son temps à Paris. Ce qui est en partie mon cas. Et donc, pour cela, je vois peut-être beaucoup plus de nuances dans ce qu'on appelle l'Occident et les relations entre l'Europe, les États-Unis, même par rapport à cette opération de Kosovo. C'est vrai que les rancœurs et les prises de conscience n'arrivent qu'un an plus tard. Pourtant, c'est important. Déjà, c'est une garantie, à mon avis, contre la répétition de ce genre d'opération dans les années à venir. Mais, je me répète peut-être, pour les Russes à l'époque de la guerre en Yougoslavie, le choc des scènes des bombardements des villes européennes transmises à la télé était difficile à regarder, déjà par la nature des images, mais aussi par la compréhension de fait de ce que c'est à cause de l'absence de la Russie que la Yougoslavie peut faire l'objet d'une opération unilatérale, décidée de la façon comme ça a été décidé par l'Occident. Parce que tout le monde est conscient de ce que, du temps de l'Union soviétique, jamais une opération de ce genre ne se produirait pas dans cette région de l'Europe.
Vous avez utilisé le terme de crise identitaire tout à l'heure. Or, l'URSS hier, la Russie aujourd'hui, est une fédération d'États très disparates. Ne pensez-vous pas que la sécession tchétchène n'est que le prélude à d'autres conflits de ce genre?
Franchement, non. Et je crois qu'on peut voir les preuves de cela dans une très faible, d'ailleurs, soutien de la démarche autonomiste et séparatiste tchétchène, même de la part des voisins musulmans des Tchétchènes du Caucase du Nord. C'est vrai que l'argument est courant de ceux qui disent que la Tchétchénie, ce n'est qu'un le premier des dominos qui peuvent tomber, commencer à tomber à partir du moment où on laisse partir la Tchétchénie. Mais je crois que la Tchétchénie, et surtout dans sa situation actuelle, doit être pris, encore une fois, pour l'aboutissement de tout un processus. Il y a un parallèle, pour moi, bon, comme tous les parallèles, elle est assez approximative, entre ce qui se passe en Tchétchénie et l'Afghanistan. Il n'y avait pas de mouvement taliban en Afghanistan avant l'invasion soviétique. Le mouvement fondamentaliste, le mouvement islamiste, militant, est largement le fruit de cette opération, de cette aventure irréfléchie. Pareil pour l'action de la direction russe en Tchétchénie, dès la première guerre en Tchétchénie. Parce que le courant autonomiste dans cette petite république n'a du tout été soutenu par la plupart de la population. Il faut dire que les Tchétchènes, qui représentent un peuple qui est très largement reparti à travers l'ensemble du territoire de l'ex-Union soviétique, qui font partie de l'élite intellectuelle et professionnelle, je peux rappeler que le président du Parlement, du premier Parlement russe, de Yeltsin, c'était un Tchétchène. Donc, il ne cherchait du tout la séparation de la Russie avant que la Russie n'arrive dans cette région du monde avec la force militaire et avec cette tentative absurde de maintenir son intégrité s'appuyant uniquement sur la force militaire et en plus utilisée de la façon très peu professionnelle.
D'autres questions?
Oui,
oui, là.
Ma question est un petit peu une remarque, mais qui se terminera par une question. Vous avez évoqué dans l'avenir pour la Russie des forces intérieures et en particulier la jeunesse, la nouvelle génération qui n'a pas connu le communisme. En fait, le problème est plus général, c'est un petit peu ces classes, je dirais, l'intelligentsia aussi. Une des richesses de la Russie était son intelligentsia, aussi bien au siècle dernier que sous l'époque soviétique. Or, cette intelligentsia, vous-même, vous l'avez évoqué, est en train de se disloquer. Le monde académique, le monde universitaire s'effrite. Beaucoup d'élites russes partent à l'étranger, même s'ils ont envie de revenir, ne peuvent pas. Et est-ce que vous croyez que la jeunesse, qui pourrait prendre la relève, a une idéologie qui les attire vers justement ce bien commun et pas plutôt, malheureusement, vers la satisfaction de leurs besoins personnels immédiats? C'est-à-dire, est-ce que vraiment on peut compter sur cette force intérieure russe pour le renouveau de la Russie?
Écoutez, on est obligé de chercher ces éléments et je ne vois d'autres éléments porteurs de promesses et de l'espoir. C'est vrai que cette jeunesse russe actuelle, évidemment, elle est autant victime de l'évolution économique désastreuse de ce pays que le reste de la société. Et vous trouverez naturellement beaucoup moins de je dirais, d'idéalistes, de romantiques, de nouvelles pousses de l'intelligentsia traditionnelle russe au sein de la jeunesse russe d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus pragmatique, cynique, peut-être méfiante à l'égard de toutes les idéologies, mais en même temps, peut-être déjà par la force de la jeunesse, la force naturelle d'ailleurs, ce qui est un élément positif, naturellement, même si son idéologie soit la recherche de la dignité de son pays et la foi dans ses capacités, dans le fait qu'elle ne soit pire que les jeunes ailleurs, peut constituer un élément de base pour la reconstruction de la prochaine élite. Essayer de retenir ceux qui voudraient partir serait impossible. Quand je parlais au fait que cette jeunesse n'a pas connu le passé communiste, je faisais référence à deux éléments. Premièrement, elle n'a pas connu la peur de la répression policière, stalinienne, et c'est déjà important. Il s'agit donc des gens, des hommes libres, libres de la peur. Deuxièmement, ils n'ont pas été obligés de vivre, c'est quasiment la continuation du premier argument, dans la schizophrénie, dans le double langage, dans la double vie de cet empire de non-sens. Et donc, elles ne peuvent pas reproduire, comme c'est le cas de l'élite politique actuelle, puisque même s'il s'agit de l'élite qui prétend qu'elle n'est plus communiste, après tout, elle agit comme la nomenclatura traditionnelle. Pour les jeunes, il serait difficile, ils seraient obligés d'inventer ce genre de comportement, ce qui, sans contrainte de l'époque des années communistes, ne serait pas possible. C'est ça les raisons de mon optimisme.
Merci, monsieur, pour votre exposé d'une clarté limpide et des propos que vous avez tenus sur un monde que l'on connaît finalement pas tellement bien.
Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît ?
Oui, merci beaucoup, monsieur, pour les propos que vous avez tenus d'une grande limpidité, surtout sur un pays que l'on connaît un peu mal, surtout par toutes ces évolutions. Ma question porterait sur des problèmes qui sont les pays baltes, qui sont des pays qui ont été extrêmement ravagés par le nazisme et ensuite par les Russes. Ce sont des populations extrêmement mélangées qui sont attachées à leur terre depuis plusieurs décennies. Et que devient l'Ukraine qui était un pays d'une grande richesse qui est tombé très bas, et aussi la Biélorussie qui est un peu dans le même stade. Et que deviennent-ils par rapport à la Russie, et quelle est l'idée que vous en faites de leur opinion sur l'Occident, étant donné que beaucoup de russophones se trouvent aux portes de l'Europe par des voies assez, disons, pas toujours très claires. Voilà, merci.
Écoutez, il s'agit de trois cas. Il y en a d'autres, évidemment, parce qu'on aurait pu continuer la liste pour descendre jusqu'au Caucase, mais il s'agit quand même de trois cas que vous avez cités, que vous avez évoqués, qui sont très, très différents. Les pays baltes, après tout, il s'agit de la zone à part, si vous voulez. même si cette zone faisait partie de la Russie traditionnelle depuis les conquêtes de Pierre le Grand. Et il y a pas mal de gens qui n'en sont pas conscients. Et donc, c'est un territoire qui peut être considéré comme le leur, autant par les Baltes que par les Russes qui ont vécu pendant plusieurs générations. Mais il s'agit certes d'une partie de l'Europe qui, en différence peut-être du reste du territoire de l'ex-Union soviétique, ne s'est pas assimilée, peut-être par la courtesse de la période depuis 1939, c'est-à-dire l'année où Staline et Hitler ont marqué la ligne de partage du territoire entre eux. Deuxièmement, parce qu'il s'agit des pays qui... Et là, il faut aller aux pays baltes pour le comprendre, qui, je dirais, auraient un choix difficile entre deux régimes totalitaires, celui d'Hitler et de Staline. Et ce n'est pas du tout évident que la plupart de la population de ces territoires, de ces républiques, préférerait Staline à Hitler. On a pu voir ça dans le comportement, d'ailleurs, de la fraction importante de la population de ces républiques pendant l'occupation nazie. Troisième élément de l'appréciation, c'est que même culturellement, il s'agit, à mon avis, à ma conviction, d'une zone à part. C'est-à-dire, si le reste de l'Union soviétique, après tout, le reste de la Russie historique, représentait ce qu'on peut appeler, même si ça devait signifier un ensemble très hétéroclite, mais une sorte de mélange eurasien des peuples chrétiens, orthodoxes et musulmans, les pays baltes, c'est autre chose. Et donc, culturellement, ils n'oubliaient jamais leur appartenance à l'Europe occidentale, ce qui, à mon avis, est confirmé par la vitesse avec laquelle ces trois républiques s'approchent de l'Union européenne, avec l'Estonie, je crois, qui en fait déjà le premier candidat à l'entrée. Pour ce qui concerne la Biélorussie et l'Ukraine, la situation est bien différente. Il s'agit des peuples frères des Russes, des peuples slaves, des peuples orthodoxes. Dans le cas de la Biélorussie, d'un peuple qui pratiquement n'a jamais connu une existence en forme d'un État indépendant et qui, par conséquent, a pris son indépendance récente presque comme une indépendance imposée, ce qui explique d'ailleurs la démarche et la popularité du président Loukachenko, qui ne cesse de parler de la nécessité de reconstruction de l'Union. Bon, pas de l'Union soviétique, mais de l'Union russo-biélorusse en forme d'un État unifié. Ce n'est pas pareil pour l'Ukraine, qu'a connu, à cause de la diversité des religions, il y a une partie occidentale qui n'est pas orthodoxe classique, il y avait quand même des courants anti-russes, nationalistes, connus depuis pas mal des années, si pas des siècles. Donc, de ce point de vue, l'existence de l'Ukraine politiquement, paraît-il, profite du soutien de la grande majorité de la population. Ce n'est pas le cas de la Biélorussie, mais économiquement, et je crois que l'évolution de ces dernières semaines la confirme, l'Ukraine, même étant un pays riche, reste un pays riche surtout du point de vue de l'agriculture. Et si je comprends bien, les produits de l'agriculture ukrainienne ne sont pas tellement recherchée, par exemple, sur le marché occidental. Ni en France, ni sur les territoires de l'Union européenne. Donc, ses relations, son appartenance économique, le fait qu'elle fait partie de l'ensemble organique, en quelque sorte, avec la Russie, est incontestable. Reste à trouver des formules élégantes de l'association de la Russie actuelle, de l'Ukraine, des autres ex-républiques de l'Union soviétique qui pourraient constituer peut-être un jour une sorte de l'Union eurasienne qui pouvait reproduire dans sa forme particulière les formules de l'Union européenne. Mais tout ça, c'est pour l'instant une perspective assez lointaine.
Oui, allez-y. Voilà, je voudrais d'abord vous remercier pour votre exposé extrêmement intéressant. On a l'impression d'assister, si vous voulez, à une consultation d'un médecin au chevet d'un convalescent, et on se pose la question de savoir si cet homme malade va renaître, comment il va renaître. Alors, tout à l'heure, vous disiez, et je voudrais vous donner mon idée, c'est pas avec des livres. Vous avez cité deux livres, n'est-ce pas ? Le livre de Staline, l'histoire abrégée du communisme, et puis d'autre part un livre, disons, qui résume les opinions de l'école de Chicago. Et je ne pense pas que, disons, à ce convalescent qu'est la Russie actuellement, il faut proposer la lecture de ces deux livres. Il faut chercher des raisons plus profondes. Alors, vous avez largement fait le tableau des divers problèmes politiques qui peuvent se poser, mais tout à l'heure, vous parliez de mouvement, je crois, de ce mot de Bernstein, et qui disait « ce qui compte, c'est le mouvement ». Mais pour avoir du mouvement, il faut une inspiration, n'est-ce pas ?
Excusez-moi, votre question, s'il vous plaît.
Oui, alors, ma question est celle-ci. Vous avez chez vous un monsieur qui s'appelle Solzhenitsyn, qui a vécu, bien entendu, sous l'Union soviétique, qui a vécu 20 ans en Occident, et avant la chute de l'Empire soviétique, avait déjà dit « il ne faut pas prendre nos leçons dans l'Occident ». Déjà, lui l'avait dit. Et je crois qu'en partie, n'est-ce pas, et d'ailleurs, depuis quelque temps, vous vivez en Occident,
ma question
est celle-ci. Quelle est l'influence actuelle de Solzhenitsyn en Russie ?
Ah.
Bon, écoutez, Solzhenitsyn, avant de rentrer en Union soviétique à l'époque, puisque c'est depuis d'ailleurs les années Gorbatchev qu'il avait cette possibilité, a posé comme condition le fait que l'archipel de Goulag, son livre majeur, mais aussi ses œuvres complètes, y soient publiées, ce qui est normal pour tout auteur, surtout pour l'auteur comme Solzhenitsyn, qui effectivement voyait ses livres interdits de publication en Union soviétique. Cette condition a été réalisée, ces livres étaient publiés. De toute façon, il n'y avait pas seulement d'empêchement pour leur publication, mais ils étaient publiés. Mais il est rentré. Mais si vous voulez une réponse courte de ma part, je dirais qu'il est rentré dans le pays de ses personnages, mais pas de ses lecteurs.
Bien, merci.